Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous fêtons ce soir, de manière anticipée mais de manière réelle, la fête de l'Ascension. Et cette fête nous invite à l'espérance. Et justement, lorsque le pape François parle chez Thérèse de l'espérance, il nous dit qu'elle était habitée par, je le cite, « une très ferme espérance ». Et ce soir, nous sommes invités, nous aussi, à avoir une très ferme espérance. Et le pape d'expliquer, je le cite, avant son entrée au Carmel, Thérèse fit l'expérience d'une singulière proximité spirituelle avec l'un des hommes les plus malheureux, le criminel Henri Pranzini, condamné à mort pour triple assassinat et impénitent. Le pape continue, offrant la messe pour lui et priant avec une totale confiance pour son salut. Elle est sûre, Thérèse est sûre de le mettre en contact avec le sang de Jésus, et elle dit à Dieu être certaine qu'au dernier moment, il lui pardonnera, et qu'elle y croira même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir. Thérèse, ajoute le pape, donne la raison de cette certitude. Tant j'avais confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Quelle émotion ensuite lorsqu'elle découvre que Pranzini, monté sur l'échafaud, tout à coup saisi d'une inspiration subite, se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et embrasse par trois fois ses plaies sacrées. Cette expérience intense, d'espérer contre toute espérance, a été fondamentale pour Thérèse, qui écrit « Depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. » Et le pape François, de conclure, « Thérèse est bien consciente du drame du péché, même si nous la voyons toujours introduite dans le mystère du Christ avec la certitude que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, l'amour miséricordieux du Rédempteur est infini. C'est pourquoi, mue par la confiance, Thérèse ose écrire « Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Je ne veux que te réjouir et te consoler. » Cela, c'est la dernière phrase du pape pour ce soir, cela nous permet de passer à un autre aspect de l'air frais qu'est le message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que Thérèse dit de cette fameuse affaire Pranzini? Que nous conseille-t-elle à nous à travers ce drame qui a fait à l'époque la une de tous les médias? Écoutons Thérèse d'abord, et puis recueillons des clés de compréhension. Voilà ce que Thérèse écrit, voilà comment elle vit ce drame. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait de l'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine, en pensant que ce sang tombait à terre, sans que personne ne s'empresse de le recueillir, et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Alors effectivement, il y a autour de nous une multitude de personnes qui sont seules, des personnes qui sont enfermées dans leur solitude ou leur vie malheureuse. Il n'y a pas de rosée mettant de la fraîcheur et de la joie, comme la joie du petit matin où la rosée annonce la belle journée qui s'annonce. Il y a des personnes, nous en connaissons tous, il y a des personnes pour qui Jésus est mort, et notre Seigneur est mort pour tous, mais qui ne le savent pas, ou bien qui se détournent de lui. Le sang de Jésus versé alors tombe à terre, sans que personne ne soit là pour prier pour ces personnes égarées. Thérèse comprend parfaitement la peine qui peut nous habiter quand un proche un membre de la famille, un conjoint, un enfant, un parent, quand un proche vit dans les ténèbres sans venir à la lumière du salut. Cette photographie dont parle Thérèse, cette photographie de notre Seigneur en croix, d'où tombe du sang que personne ne recueille, cette photographie, en fait, c'est une image, un petit signet qu'elle avait dans son bréviaire, son petit bréviaire simplifié de l'époque, et il y avait dessiné sur cette image Marie-Madeleine au pied de la croix, et de la croix, le sang de Jésus tombe sur la terre du Golgotha. Thérèse, jusque-là, ne l'avait jamais remarqué. Mais alors, et Thérèse écrit, le cri de Jésus sur la croix retentissait ainsi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Ces paroles de Jésus, « J'ai soif », résonnent donc en Thérèse. Thérèse relie cette image de son bréviaire, une image qu'elle a vue tant de fois, à une parole de la Bible. Et du coup, une force nouvelle et entraînante jaillit. Il peut d'ailleurs en aller de même pour nous. Est-ce que nous sommes déjà demandé avec quelle phrase de la Bible, avec quelle parole de Jésus, je mettrai volontiers en lien avec la statue de Notre-Dame des Victoires, par exemple. Ou bien, y a-t-il une parole des Écritures, ou bien une parole de Thérèse elle-même, que je rattacherai volontiers au reliquaire de Thérèse, qui est ici avec nous? Cela permettrait de donner un relief tout différent et une confiance affermie en Notre-Dame des Victoires ou bien en Thérèse elle-même. Pour revenir à Thérèse, notre Seigneur fait entrer dans son intimité ceux qui s'approchent de lui et il leur partage sa propre vie, mais il leur partage aussi ses propres sentiments. Jésus nous partage ses joies, sa paix, son Esprit Saint. Jésus nous partage aussi ses préoccupations. Dieu donne aux uns, en partage, son goût, son désir de droiture, de justice. À d'autres, Dieu va plutôt communiquer sa compassion pour autrui, pour les malades, pour les personnes en difficulté. Pour d'autres encore, Dieu va leur communiquer une présence gratifiante, une présence valorisante pour les autres, une présence encourageante. Chaque disciple, chaque chrétienne, chaque chrétien que nous sommes reçoit de Dieu ce qui est bon pour lui et pour les autres. Et dans le cas de Thérèse, ce qu'elle a reçu, c'est la soif de sauver les âmes qu'elle reçoit. Jésus a soif de nous abreuver de son amour, de sa miséricorde, de ses bienfaits immenses. Jésus, c'est vrai, c'est le Seigneur. Et quand on l'appelle Seigneur dans les évangiles, il ne dit jamais « non, non ». On peut l'appeler le Seigneur sans problème. Mais il est aussi le Fils de l'homme. Et c'est un titre auquel Jésus tient beaucoup. C'est-à-dire qu'il est l'un de nous, qu'il est avec nous. Il est, comme disent l'évangile selon saint Luc ou d'autres passages dans le Nouveau Testament, le premier-né d'entre nous. Le premier-né d'entre nous à la vie éternelle. Notre frère aîné, qui nous voit comme étant ses propres frères et ses propres sœurs, et qui nous entraîne avec lui, se reconnaissant lui-même comme l'un de nous. C'est pourquoi, comme entre frères, Jésus nous partage sa gloire, ses sentiments, ses préoccupations, sa vie. Et pour Thérèse, cela va prendre une tournure inattendue. Je la cite, c'est la suite. « Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Nous l'avons deviné, Thérèse nous parle de ce fameux Pranzini. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué ce détail ? Gros comme une maison, qu'en général on ne relève pas. Quand Thérèse parle de lui, quand Thérèse parle de Pranzini, elle dit bien que c'est un grand criminel et qu'il avait effectivement commis des crimes horribles. Elle le dit. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Thérèse est lucide sur la monstruosité des actes commis par cet homme. Pour autant, ce n'est pas suffisant aux yeux de Thérèse pour le haïr, comme le faisait alors presque toute la société de l'époque. Car aucun crime, le plus horrible qui soit, ne surpasse la miséricorde divine qui, elle, est capable de sauver absolument tout le monde et qui veut sauver tout le monde. Le péché est monstrueux, mais la grâce de la miséricorde, elle, elle est infinie, elle est sans fond. Il n'y a, pour Dieu, il n'y a, pour Thérèse, aucune situation désespérée qui ne puisse être restaurée. Le pape François l'a dit, quand nous l'avons cité tout à l'heure, l'amour miséricordieux du Rédempteur est infini, sans limite, sans fond, inépuisable. Pranzini est loin d'être un enfant de cœur. C'est un homme de 31 ans qui est employé sur des paquebots et là, il vole de l'argent. Alors comme il est découvert, il s'enfuit, il part faire la guerre en Afghanistan aux côtés de l'armée britannique avant de s'offrir comme mercenaire aux Russes. Après quoi, il va faire un petit séjour au Soudan avec toujours des petits méfaits à la clé, et puis il vient ensuite à Paris, où il travaille ici, en notre capitale, comme interprète. Il connaît 8 langues. Et c'est un homme qui a 2 passions, pour lesquelles il passe beaucoup de temps. Les jeux d'argent et les femmes. Alors, il mène une double vie. À côté de ses services de traducteur, il est aussi, on ne sait pas s'il est proxénète ou bien gigolo, l'un des deux, et il joue de grosses sommes d'argent au casino. Mais voilà, au jeu d'argent, il perd beaucoup et il se retrouve très endetté. Alors comment éponger ses dettes? Le 17 mars 1887, il prend alors la décision de se rendre chez une de ses maîtresses, près de l'avenue des Champs-Élysées, pas très loin d'ici. C'est une femme de 40 ans qui est aisée et il le sait. Avec elle, avec cette femme, il y a une autre femme, une femme de chambre, une employée qui a 38 ans et la fille de cette femme employée qui, elle, a 9 ans. Alors, il arrive. Excusez-moi les détails, hein. Il égorge les 2 femmes adultes et il décapite la petite fille. C'est d'autant plus atroce qu'il a prémédité son crime en laissant sur place volontairement la ceinture et les boutons de manchette d'un homme que connaissaient ses victimes. C'est des petites pièces vestimentaires où il y a les initiales de cet homme, G.G., Gaston Gessler. Et Pranzini se dit que ça devrait être un bon coup, parce que comme ça la police va retrouver ces pièces vestimentaires d'un homme sur lesquelles il a les initiales GG, la police fera vite le rapprochement avec Gaston Gessler, et c'est lui qui sera arrêté et condamné à ma place. Ça ne marchera pas. Au contraire, Pranzini, sur place, après avoir volé les bijoux, ne se rend pas compte qu'il y a tellement de sang par terre qu'il marche sur une flaque de sang qui, en se coagulant, gardera l'empreinte de sa semelle. Tous ces petits détails, et j'en passe, Thérèse les connaît. Tout le monde en parle, y compris le journal La Croix, où elle découvre, Thérèse, l'affaire. Alors pourquoi avoir parlé de ces détails assez monstrueux ? C'est que Thérèse perçoit déjà que la miséricorde de Dieu est tellement prête à pardonner même les plus grosses monstruosités. Un mois avant de mourir, Thérèse, sur son lit de mort, insistera sur ce point. Elle dira, je la cite, « On pourrait croire que c'est parce que je n'ai jamais péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » On a peut-être l'habitude de savoir que la miséricorde est infinie, qu'il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné, que moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance parce que je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Mais est-ce que nous en rendons compte? Moi, pendant très longtemps, je savais ça de manière plutôt intellectuelle. Je ne m'étais jamais trop posé la question de me dire « Mais est-ce que tu te rends compte, frère Cyril, de cette vérité ?» Jusqu'au jour où, avec des jeunes, je fais ça une fois par an, on a été sur la pelouse et on a chanté des chants de louange à notre Seigneur avec des guitares, un petit djembé, puis je ne sais plus quoi, une clarinette, quelque chose comme ça. Et puis les gens passaient. Et parmi ces chants, il y avait celui « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles ». « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles. » Et j'étais marqué parce que c'est un chant qui interpellait beaucoup les gens. Les gens s'arrêtaient, les gens écoutaient. Et on voyait sur leur visage, sur leur réaction, que c'était quelque chose qu'ils découvraient pour la première fois. Quelque chose d'inouï. Quelque chose qu'on ne leur avait jamais dit. Nous sommes beaucoup dans le monde, dans la société. Nous sommes beaucoup parmi nous à être en proie à la culpabilité, aux scrupules, et j'en passe. Thérèse nous dit « Arrêtons avec les scrupules, arrêtons avec la culpabilité. Arrêtons de nous donner des injonctions à nous-mêmes. Dieu sait que nous sommes fragiles, Dieu sait que nous sommes capables de produire des monstruosités, mais Dieu est toujours là à nous tendre la main, à nous pardonner, à nous relever si nous le voulons, si nous nous tournons vers lui, sans nous juger. » Prandini, pour l'instant, n'en a que faire. Il a commis son crime horrible, il s'enfuit de Paris et il part à Marseille avec les bijoux. Là, je vous l'ai dit, il a deux passions, les femmes et l'argent. Il se rend dans une maison close où il veut payer avec les bijoux, en tout cas avec certains des bijoux. Mais la femme qui tient la maison close, la patronne, est méfiante. Elle ne sait pas c'est qui cet homme. Et puis surtout, elle ne veut pas être accusée de recel. Elle prend un risque. Alors, elle dit à Prandini de revenir le lendemain pour s'assurer que les bijoux sont réellement vrais, et elle prévient la police. C'est ainsi que la police, avertie, part arrêter Prandini, qui était tranquillement en train d'écouter un spectacle à l'Opéra de Marseille. Dès lors, je reprends ce que dit Thérèse, « Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employai tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priai Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour Prandini, le grand criminel. » Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Le coupable, justement, est emmené à Paris, c'est là où il a commis son méfait, et là, à partir du début juillet, à partir du 7 juillet, la cour d'assises de la Seine, sur l'île de la Cité, l'actuel quai des Orfèvres, dans une salle d'audience bondée, avec parmi les gens assistant au procès des hommes plus ou moins célèbres ou des hommes qui vont le devenir, dont un certain Georges Clemenceau, et tous veulent la mort de Pranzini. Il est condamné à mort le 13 juillet et il sera guillotiné le 31 août, c'est-à-dire un mois et demi après. Et c'est pendant ce laps de temps, c'est pendant ce mois et demi que Thérèse prie intensément pour lui, qu'elle offre des messes pour lui, qu'elle espère, elle est quasiment la seule à espérer pour lui. Et Céline se joint à elle. Thérèse remue ciel et terre afin de sauver in extremis son pécheur. Je recite Thérèse. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs, à Céline et à Thérèse, seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, le papa Louis Martin avait interdit à ses filles de lire le journal parce que les détails que je vous ai livrés, il ne voulait pas que ses filles en soient traumatisées. Je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je ? Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et embrasse par trois fois ses plaies sacrées. Puis, son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe. Les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Alors que retenir de ce sauvetage du criminel Pranzini, devenu tout à coup le premier enfant de la petite Thérèse? Le pape François nous répond « Cette expérience intense d'espérer contre toute espérance a été fondamentale. » Espérons nous aussi pour nous-mêmes, pour nos proches. L'espérance de Thérèse pour Pranzini a été tellement puissante qu'en fait, même après la mort de Pranzini, Thérèse, même après le signe de repentir de Pranzini, Thérèse a continué à prier de longues semaines et de longs mois pour lui. Thérèse a continué à offrir des messes pour son salut. Elle avait peur, Thérèse, que Pranzini soit sauvé mais qu'il soit au purgatoire et elle voulait le délivrer de là le plus rapidement possible. Et c'est ainsi que, des années plus tard, Thérèse, devenue carmélite, répétera sans cesse dans son Carmel et notamment à ses novices une phrase qu'elle tient de Jean de la Croix : « On obtient de Dieu tout autant qu'on en espère. » Et nous, frères et sœurs, on obtient de Dieu tout autant qu'on en espère. Qu'espérons-nous? Qu'espérons-nous de Dieu? Qu'attendons-nous de lui? Bien souvent, pour nous, espérer en Dieu, c'est se projeter au ciel. C'est l'espoir de rejoindre un jour la très sainte Trinité, d'être sauvé définitivement et de régner pour l'éternité. Et c'est vrai. C'est ce que Thérèse a obtenu pour Pranzini. Cette vérité stimule notre foi et notre charité. Mais Thérèse a également un autre secret. Pour elle, l'espérance, ce n'est pas simplement se projeter dans l'avenir, espérer que Dieu m'attend, qu'il m'accueillera un jour au sein du ciel avec la Vierge Marie, les élus, les anges, pour une éternité bienheureuse. Thérèse nous invite à découvrir l'espérance sous une autre facette. C'est sa novice, c'est pas un hasard, sa novice préférée, Sœur Marie de la Trinité, qui nous met sur la bonne voie. Après la mort de Thérèse, quand cette sœur témoigne pour le procès de béatification, voilà ce qu'elle dit. « Un jour, j'ai manifesté à Sœur Thérèse ma crainte que le bon Dieu soit fâché contre moi à cause de mes imperfections sans cesse renaissantes. « Rassurez-vous, me disait-elle, celui que vous avez pris pour époux a certainement toutes les perfections désirables, mais, si j'ose le dire, il a en même temps une grande infirmité. » C'est Thérèse qui ose parler de l'infirmité de Dieu. « Il a en même temps une grande infirmité, c'est d'être aveugle. » Vous connaissez l'expression « l'amour rend aveugle ». Et Thérèse applique cette expression au bon Dieu lui-même. Le bon Dieu est tellement amoureux de nous qu'il est aveugle. Thérèse continue. Il est une science qu'il ne connaît pas, le bon Dieu, c'est le calcul. Ces deux grands défauts, qui seraient des lacunes fort regrettables pour un époux mortel, rendent le nôtre, notre Seigneur, infiniment aimable. S'il fallait que Jésus vît clair et qu'il sût calculer, croyez-vous qu'en présence de tous nos péchés, il ne nous ferait pas rentrer dans le néant ? Mais non, son amour pour nous le rend positivement aveugle. Voyez plutôt, continue Thérèse, si le plus grand pécheur de la terre, se repentant de ses offenses au moment de la mort, expire dans un acte d'amour, aussitôt, sans calculer d'une part les nombreuses grâces dont ce malheureux a abusé, de l'autre tous ses crimes, il ne compte plus que sa dernière prière et le reçoit sans tarder dans les bras de sa miséricorde. Thérèse nous invite à espérer, non seulement que je serai admis au ciel, mais en plus que l'amour de Jésus pour moi est si fort qu'il est aveugle sur mes propres défaillances, imperfections, péchés, qu'il pardonne si facilement, et que c'est lui qui vient à moi dans mon concret quotidien d'aujourd'hui. C'est l'avenir de la vie éternelle de l'amour de Dieu qui vient faire irruption dans mon temps présent, qui vient à moi aujourd'hui concrètement. Reprenons certaines images, et on terminera par là, très célèbres de Thérèse, quand elle écrit son manuscrit B, où elle compare Jésus au grand aigle qui doit emporter le petit oiseau au ciel. Mais c'est bien le grand aigle qui fond sur le petit oiseau, qui vient le chercher, et pas l'inverse. Ou alors, c'est bien le feu de l'amour de Dieu qui vient enflammer le néant que nous sommes, et ce n'est pas le néant qui va se projeter dans le feu. Et on pourrait multiplier les exemples. Ayons confiance en cet amour aveugle de Dieu pour nous. Ayons cette espérance que Dieu transforme nos vies dès aujourd'hui, qu'il nous insuffle dès aujourd'hui son amour miséricordieux, si amour et si miséricordieux, qu'il accepte Dieu lui-même d'être aveugle sur ce que nous-mêmes nous voyons de noir en nous. Et Thérèse, en terminant à peu près l'histoire d'une âme, écrira « En effet, mon espérance n'a jamais été trompée. » Comment Thérèse a-t-elle pu écrire cela ? Eh bien, elle a constaté, elle a vérifié par elle-même que son espérance concrète, son espérance d'être délivrée de son traumatisme d'enfance, celle qui avait été causée par la mort de sa mère et ensuite par le départ de Pauline, avait été exaucée. Que son espérance de devenir sainte par une petite voie plus facile que la voie des grands sacrifices a été exaucée. Vraiment, mon espérance n'a jamais été trompée. Eh bien, à nous poser la question, qu'est-ce que j'espère de Dieu dans ma vie pour aujourd'hui ?